It's Morning Edition from NPR News.
Das Mädchen sagt ihm bei Haus.
France Inter, le 18-20.
Si l'Uttar Pradesh, le plus peuplé des États indiens, était un pays, ce serait le cinquième du monde. C'est vous dire quel est l'enjeu pour Narendra Modi, le Premier ministre indien aussi, et pourquoi tout le pays regarde voter cet État avec beaucoup d'attention. Si l'Uttar Pradesh flanche, est-ce que c'est Modi qui flanche lui aussi? On y viendra dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Turquie. On parlait de nationalisme. Tiens, nous sommes devant Sainte-Sophie. Qui est redevenu mosquée, vous le savez, il y a un an et demi par la volonté d'Erdogan, et nous prendrons justement des nouvelles de ce symbole d'Istanbul. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Ogeni a trouvé une femme esclave à Pékin, des pubs pour le tabac désormais banni en Suisse, et une bibliothèque qui rouvre, c'est à Mossoul. À 18h50 dans le cinéma en VO avec Corinne Pellissier, il est question d'un chat qui passe un sale quart d'heure dans un film d'horreur norvégien. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four qui regarde le convoi de la liberté et récupéré de part et d'autre de la frontière canadienne, et on verra comment. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Jaffrelot.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes notamment professeur au King's College, spécialiste de l'Inde. On rejoindra Sébastien Farcy dans un tout petit instant qui va nous y emmener justement dans l'Uttar Pradesh. Je le disais tout à l'heure, pour comprendre les enjeux, il faut donner effectivement quelques chiffres. Si cet État était un pays, ce serait donc le cinquième au monde. C'est gigantesque. Il y a 240 millions d'habitants. C'est plus grand que le Pakistan, c'est plus grand que le Brésil. Enfin, c'est vraiment un pays à l'intérieur du pays. C'est aussi celui qui envoie le plus de parlementaires. Donc, de fait, c'est celui qui fait quelques premiers ministres. Il paraît que Nehru était originaire de l'Uttar Pradesh. Donc, on dit que c'est un laboratoire, mais c'est même mieux qu'un laboratoire, en fait. Est-ce que c'est une sorte de copie conforme? Si l'un flanche, le reste aussi, ou pas?
Ça peut être effectivement interprété dans ces termes. C'est effectivement 80 sièges sur 544 au Parlement, à la Chambre basse du Parlement. Et puis, c'est 400 élus régionaux qui comptent énormément pour désigner ceux de la Chambre haute, les sénateurs, si vous voulez. Or, la Chambre haute, en Inde, elle est très importante. Elle a un poids quasiment équivalent à la Chambre basse. Donc, perdre l'Uttar Pradesh, c'est perdre des soutiens important au niveau parlementaire, mais c'est plus que ça. Ce serait un symbole. Ce serait le signe que, effectivement, le BJP est en perte de vitesse. C'est l'État qui l'a gagné à la surprise générale en 2017 avec une majorité absolue. Il n'en a pas gagné depuis. Il n'a pas gagné de majorité absolue depuis 5 ans. Et donc c'est un test aussi de ce point de vue-là.
Mais c'est un État aussi dont on dit qu'il change de tête très régulièrement, précisément parce que ils sont si nombreux que le seul moyen à un moment de pouvoir dire quelque chose, c'est de le dire au moment du vote. Et rarement, voire jamais, deux députés ont été élus.
Ça fait 30 ans que on n'a pas sorti les sortants.
Voilà.
Et donc si le BJP réussissait à remporter 2 élections de suite, alors ce serait le signe de son enracinement, ce serait aussi le signe peut-être que les élections ne sont plus aussi libres qu'elles l'étaient.
Ça sert de baromètre, effectivement, on l'a vu, et entre baromètre et laboratoire, il y a deux choses qui sont vraiment très très différentes. Et quand on disait laboratoire tout à l'heure, c'est aussi qu'il est dirigé, cet État, par un homme extrêmement particulier. Et là, pour le coup, on est dans une espèce de mini-laboratoire. Mini à 240 millions, ça fait un gros labo quand même. Mais on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à ce qu'est Narendra Modi avec celui qui dirige cet État-là.
Tout à fait. Yogi Adityanath, ce chef de gouvernement, c'est d'abord un prêtre. C'est le grand prêtre d'un grand temple de l'Est de la province. Et jamais encore, aucun État de l'Inde n'avait été dirigé par un religieux. Un religieux qui a la robe safran, a tous les atours d'un chef religieux, et qui d'ailleurs officie dans son temple. Il n'est pas à 100% chef du gouvernement, car il a d'autres obligations. Et c'est un chef de milice aussi, car... il y a encore 5-6 ans, il était à la tête d'une véritable milice. Il a fait de la prison parce qu'il était responsable d'émeutes entre hindous et musulmans, anti-musulmanes. Et c'est donc à la fois un homme politique, un chef religieux et on peut dire un chef de guerre, en tout cas un homme qui n'a jamais hésité à recourir à la manière forte pour imposer ses idées.
Et il est la définition au fond de l'empiétement de la religion sur l'État que Modi incarne depuis 2014 ou un peu après lorsqu'il est arrivé.
Tout à fait, et les élections se jouent sur ce thème. C'est-à-dire que son slogan, il n'en a pas d'autre, c'est 80 contre 20. Il y a 20% de musulmans. Moi, je représente les 80 autres pourcents. Et bien sûr, il a d'autres arguments électoraux, essentiellement la loi et l'ordre.
Mais la loi et l'ordre, elle dit la même chose, en fait.
C'est la même chose. C'est l'imposition de la volonté d'une majorité sur une minorité qui est perçue, qui est dénoncée, qui est présentée comme faite de malfaiteurs. Il y a eu un encart publicitaire incroyable en première page, de nombreux journaux indiens payés par ce gouvernement. Une photo d'un musulman avec un kéfier en train de lancer des cailloux. Avant, la photo d'un musulman, les mains jointes, demandant grâce. Après, bon, c'est ça le programme.
Jusqu'à quel point ça ne se passe qu'autour de sa personnalité finalement, et ça devient, et là aussi en imaginant ce qui se passera autour de Narendra Modi, tous contre lui, donc une espèce d'alliance contre lui, comme un référendum contre lui, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué ?
C'est plus compliqué parce que l'opposition ne réussit pas à s'allier. Et en fait, on a une opposition qui est en ordre dispersé, bon, un congrès qui ne pèse pas... Priyanka Gandhi a mené le parti à la bataille électorale, mais c'est pour l'honneur en quelque sorte. Alors, un honneur qu'elle sauve à travers une décision remarquable. Elle a nommé un nombre de candidats femmes, donc un nombre de candidates record. Les femmes sont très peu présentes dans la politique indienne. C'est 6% des députés. Bon, elle a fait un coup, en quelque sorte. Mais c'est pour l'honneur, parce qu'il n'y aura pas d'élus. Par contre, il y a deux autres partis qui sont plus importants. Le parti des Dalits, le parti des intouchables, ou anciens intouchables, qui pèse très lourd, parce que c'est un État où il y a beaucoup d'intouchables. Donc c'est un parti qui n'a jamais remporté moins de 20% des voix depuis plusieurs années. Et puis il y a le Parti Socialiste, le Samajwadi Party, qui est peut-être l'outsider dont le BJP devra se méfier. Mais vous le voyez, c'est un système à un tour. Quand il y a une opposition divisée, les chances de l'emporter sont bien moindres.
Et vous l'avez un peu évoqué, et notamment en parlant des intouchables, mais c'est aussi, et peut-être paradoxalement, puisque c'est l'un des plus peuplés, c'est le plus peuplé, l'un des plus pauvres. Et ça dit des choses, ça nous a dit des choses aussi pendant les fameuses émeutes qui a eu lieu autour de la réforme agricole. On va y venir, je voudrais que pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire et où nous sommes, écoutez ce reportage de Sébastien Farcy, donc dans cette Uttar Pradesh gigantesque, qui commence à voter à partir de maintenant. Ça va durer très longtemps, c'est évidemment un processus...
On n'aura pas les résultats avant le 10 mars.
C'est ça, un processus évidemment qui est très long. On écoute le reportage de Sébastien, on se retrouve après.
La foule est nombreuse dans le grand temple d'Hanuman à Ayodhya. Les dévots chantent les louanges de Ram, le dieu le plus vénéré dans cet état de l'Uttar Pradesh, qui serait né ici, dans cette cité. Après plus de 70 ans de disputes légales et de violences religieuses, le parti nationaliste hindou du BJP, au pouvoir à New Delhi et dans la région, a obtenu l'autorisation de construire un grand temple de Ram à moins d'un kilomètre d'ici. Et ceci ravit Pradeep Kumar Dwivedi, venu prier avec sa famille.
Tellement de gens se sont sacrifiés pour que nous ayons ce temple de Ram. Maintenant, grâce au BJP, il est en train d'être bâti et deviendra un symbole pour tous les hindous. Je suis donc certain que le BJP sera réélu.
Hindouisme militant, nationalisme et sécurité, voici les thèmes principaux de la campagne du BJP pour sa réélection dans cet état de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays, avec 230 millions d'habitants. Cette politique lui a offert une majorité écrasante en 2017, mais depuis, la crise économique engendrée par le Covid-19 a frappé et dans cet état pauvre, le revenu moyen a baissé depuis 3 ans pour tomber à 65 euros par mois, l'équivalent de celui du Sénégal. Arjun Kumar Bharti est chauffeur de bus privé et il sirote un thé sur une place du centre de Lucknow, la capitale de l'État.
Je gagne 500 roupies par jour, soit 6 euros, ce qui est le même montant qu'il y a 2 ans. Mais les prix, eux, ont doublé. Et quand ma femme a accouché, j'ai dû m'endetter pour aller dans un hôpital privé, car l'hôpital public ne pouvait pas la traiter. Alors le temple de Ram, à quoi il va me servir? Si au moins ils avaient construit des hôpitaux ou des écoles. J'ai voté pour le BJP la dernière fois, mais je ne le referai pas.
Il reste toutefois une arme au BJP, la division religieuse. Depuis 5 ans, le gouvernement régional dirigé par le moine hindouiste Yogi Adityanath diabolise les musulmans, qui représentent 20% de la population, et les accuse entre autres de convertir les femmes hindoues par le mariage. Le BJP a ainsi adopté une loi pour restreindre les mariages interreligieux et plusieurs musulmans sont en prison pour avoir voulu épouser des femmes hindoues. Le BJP présente ainsi le musulman comme quelqu'un de dangereux pour attirer les votes de la majorité hindoue. Et cela a des effets directs sur des personnes comme Nadim Siddique, un travailleur social de Lucknow.
J'organise des campagnes de dons du sang. Des personnes nous appellent quand elles ont un besoin urgent de sang. Mais ces derniers temps, elles disent vouloir seulement du sang d'un hindou. Beaucoup refusent le don quand elles entendent que je suis musulman.
Le BJP a remporté 40% des voix en 2017 et il reste le parti le plus riche et le mieux organisé du pays. Même si sa popularité a baissé, il garde donc de grandes chances de former le prochain gouvernement en Uttar Pradesh.
Sébastien Farsi pour le reportage. Christophe Jaffrelot, il y a des choses qui font peur évidemment dans ce qu'on entend, mais je voudrais retenir aussi ce monsieur qui dit le temple c'est bien, mais il faut bien manger. Jusqu'à quel point ça compte quand même et ça va vraiment compter cette fois?
C'est ce qu'on se demande tous. C'est un test très important de ce point de vue-là. Jusqu'où est-ce que le religieux peut oblitérer les inégalités croissantes? Ce ne sont pas seulement les paysans, ce sont bien sûr aussi les ouvriers. Tout le monde a perdu économiquement au cours des dernières années. Et si ça ne suffit pas, si ça ne se traduit pas par sortez les sortants, alors ça voudra dire que la diabolisation des musulmans, cette nouvelle politique identitaire, elle est très enracinée et elle permettra au BJP de devenir un parti presque indéboulonnable.
La fébrilité quand même, on la sent, puisque les fameuses réformes agricoles qui ont provoqué cette année entière de manifestations ont finalement été retirées. Alors elles avaient été suspendues par la Cour suprême précédemment, mais le symbole il est là. Il l'est d'autant que les deux États qui avaient emmené le plus de manifestants, c'est le Pendjab et c'est l'Uttar Pradesh. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une forme de fébrilité.
Oui, bien sûr. Non, le parti du BJP sait qu'il joue très gros et que le vent commence à tourner. C'est tactique, ce retrait. Il n'a été remplacé par aucun texte, ce texte de loi. Donc on n'a toujours pas de réforme de l'agriculture. C'est un peu à l'image de l'amateurisme en termes de politique publique de ce gouvernement, quand même. Est-ce que ça va être un argument suffisant pour que on aille du côté de l'opposition? Le fait que le BJP ne soit plus aussi agressif, aussi déterminé. Ce qu'il fait aussi le BJP, c'est très intéressant, c'est qu'il revient au calcul de caste. Il y a bien sûr le religieux, mais il essaie aussi de faire des coalitions de castes qui permettront, dans chaque circonscription, de l'emporter face à l'opposition. Alors, c'est en soi un signe de fébrilité. C'est-à-dire que le religieux ne suffit pas, il faut d'autres arguments. Et non seulement on retire les lois agraires, mais on fait aussi à nouveau du calcul sur la caste. Dieu sait si c'est contraire à leur idéologie. Ils disaient, oubliez votre caste, soyez hindous avant tout. Mais ça, c'est effectivement un symptôme de fébrilité.
Comment se fait-il qu'on n'entende plus parler du Covid dans ce pays, alors qu'on a... Je me souviens que vous étiez venu pour nous en parler, on se souvient de cette période absolument dingue où les gens se battaient pour avoir des respirateurs dans des états absolument épouvantables. Il y avait des morts et subitement, on n'en parle plus, on ne parle même plus de la gestion erratique par maudit de ce Covid. On en est où en fait? Est-ce qu'on le sait?
On en est à une forme de désinformation systématique. Les chiffres officiels sont de 400 000 morts, il y en a eu 4 millions. On n'a jamais réussi à faire monter la vaccination en puissance, on a probablement 40% de vaccinés vraiment complets.
Dans un pays qui sait fabriquer,
Qui les exporte même.
Bien sûr.
Mais la politique, la doxa, le discours officiel est un discours sur le mode de « tout va bien, il n'y a rien à voir, circuler », et les journalistes qui cherchent à obtenir des informations sont derrière les barreaux. En Uttar Pradesh en particulier, Dieu sait si on utilise les lois les plus honnies, la sédition, pour mettre les journalistes en difficulté. Donc c'est aussi une des explications. Ce déni contribue aussi à cette capacité à rebondir que Narendra Modi cultive par excellence.
Ça veut dire qu'au moment où on se parle, par exemple, Christophe Jaffrelot, le variant Omicron, etc., on ne sait pas dire, en fait, en ce moment, dans un pays aussi gigantesque.
On ne sait pas dire, on sait simplement que Omicron est bien sûr bien moins dévastateur que a été le Delta. Le Delta est né en Inde et a fait des ravages en Inde avant de se répandre à l'extérieur. Maintenant, le nouveau variant n'est pas aussi évidemment dommageable. Mais est-ce que l'électorat en voudra au gouvernement d'avoir si mal géré cette crise il y a un an et demi? Encore une fois, rien ne le dit si on considère qu'avant tout, c'est l'identité qui l'emporte, et l'identité religieuse par-dessus toute.
On le suit ce processus, donc Christophe Jaffrelot, merci beaucoup. On a bien entendu que les résultats 10 mars, donc tout ça c'est extrêmement long mais passionnant. Merci beaucoup de
Avec
votre
plaisir.
Passage d'un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Turquie où nous prendrons des nouvelles de Sainte-Sophie, un an et demi après sa reconversion en mosquée. Une reconversion voulue par Erdogan. Et puis la troupe qui voyage avec nous jusqu'à 19h est menée par Sébastien Eugénie sous les radars.
Nous irons en Irak où la grande bibliothèque de Mossoul va bientôt rouvrir 5 ans après les autodafés de l'État islamique.
Et chaque mercredi, c'est le cinéma en VO. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir. Aujourd'hui, la nouvelle sensation venue du froid, un film d'horreur norvégien The Innocent avec de gens petits enfants démoniaques.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir à vous. Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Au moment où les convois de la liberté nés au Canada gagnent la France, on va s'interroger sur la nature de ce mouvement. Colère compréhensible ou noyautage d'extrême droite.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni avec Arlo Parks, Eugene sur France Inter.
Thank you.
le bruit du monde ce soir est en Turquie, il est à Istanbul, il est à Sainte-Sophie. Qu'il y a un an et demi maintenant, voyez son destin bouleversé une fois de plus. Sainte-Sophie, symbole d'Istanbul, tour à tour église byzantine, mosquée ottomane, musée républicain, mosquée à nouveau donc en juillet 2020, selon la volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette décision a suscité des inquiétudes, on s'en souvient, sur la protection et la vocation universelle du lieu. Alors aujourd'hui, comment va Sainte-Sophie ? Eh bien, c'est Anand Lauer qui raconte.
C'est l'heure de la prière dans la grande mosquée Sainte-Sophie. Lucia, une touriste espagnole, s'attarde quelques instants sur le tapis couleur turquoise, derrière une barrière à roulettes que des agents viennent installer entre visiteurs et fidèles. Puis elle sort en laissant glisser le voile qui couvrait ses cheveux.
J'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Je me suis sentie comme dans une mosquée, pas comme dans un musée.
Aïcha, venue d'Afrique du Sud, est conquise depuis longtemps. C'est la sixième fois qu'elle s'y rend. Mais c'est la première fois qu'elle voit Sainte-Sophie en mosquée.
Je suis venue tellement de fois ici et je l'avais toujours connue comme musée. Là, elle a enfin trouvé sa place. J'étais devant la télévision en Afrique du Sud pour suivre sa reconversion en direct. Depuis, j'avais juste envie de m'asseoir dans un coin et d'y prier. J'ai adoré. C'est si calme, si beau, si paisible.
Aujourd'hui, c'est Ferrou Mouchtouer qui guide la prière. À 50 ans, cet homme au charisme indéniable est l'un des deux imams qui officie à Sainte-Sophie depuis juillet 2020, depuis que l'édifice est redevenu mosquée sur volonté du président Recep Tayyip Erdogan.
Quand la prière est terminée, les gens du monde entier, musulmans et non musulmans, visitent la mosquée. La seule différence avec le musée, c'est qu'ils entrent gratuitement. C'est mieux, non ?
Sainte-Sophie ou Hagia Sophia, née basilique byzantine en 537 sous l'empereur Justinien, convertie en mosquée quand les Turcs ottomans conquièrent Constantinople en 1453, transformée en musée en 1934 par le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, Sainte-Sophie, donc, est de nouveau mosquée depuis un an et demi. Comme le décrit l'imam, en dehors des heures de prière, l'intérieur du monument est un mélange de recueillement et d'agitation permanent entre ceux qui prient seuls ou lisent le Coran et ceux qui se prennent en photo en écoutant un guide résumé en quelques minutes 1500 ans d'histoire. Attablé non loin de Sainte-Sophie, dans un café municipal du quartier de Sultanahmet, à deux pas de l'arrêt de tramway qui porte le même nom, Metin Kural, guide touristique à Istanbul depuis 30 ans, fait le point sur ce qui a changé pour les visiteurs.
Pas grand-chose en vérité. Ils doivent retirer leurs chaussures. Les femmes doivent se couvrir la tête. Il y a désormais une partie réservée aux femmes, mais on n'y trouve rien d'important d'un point de vue historique. On peut visiter toute la zone sous la coupole. Assis, il y a ces rideaux sur la mosaïque de l'abside. Je préférerais qu'ils s'ouvrent après la prière.
L'abside, au bout de la nef, c'est là où se trouve le mihrab, où ne vont que les hommes qui prient. Son plafond en demi-coupole présente une superbe mosaïque de la Vierge à l'Enfant, datée du IXe siècle. Depuis que Sainte-Sophie a rouvert au culte musulman, cette mosaïque est invisible, cachée en permanence derrière de grands voiles blancs, alors que les autorités avaient promis de les rouvrir en dehors des heures de prière. L'imam s'en justifie.
La mosquée comporte 9 mosaïques. Parmi elles, une seule est située dans la direction de la Mecque. Elle doit rester cachée, car nous, musulmans, nous ne pouvons pas prier face à des icônes, des représentations. Et elle reste cachée en permanence, car on est toujours en train de prier dans une mosquée.
La mosquée Sainte-Sophie est-elle aussi bien protégée que l'était le musée ? C'est la question que pose à la Turquie le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi l'inquiétude de nombreux historiens et architectes spécialistes de l'édifice. À l'image de Zeynep Aounbay, membre depuis 30 ans d'un conseil scientifique de préservation de Sainte-Sophie au ministère de la Culture.
Lors d'une visite pour suivre l'avancée d'un projet de restauration des minarets, j'ai par exemple constaté que des câbles avaient été cloués dans la toiture en plomb. Ça n'aurait pas dû arriver. Le problème, c'est que certaines personnes font des erreurs en priorisant la fonction de mosquée.
Source d'inquiétude pour les uns, la reconversion en mosquée reste une source de tristesse pour d'autres, notamment au sein des minorités religieuses de Turquie. Garo Paylan, arménien et député d'opposition, confie ne plus vouloir se rendre à Sainte-Sophie.
Le patriarche grec orthodoxe Bartholomée est à Istanbul. Vous avez une communauté grecque orthodoxe d'un millier de personnes à Istanbul. Mais personne ne s'est soucié de ce qu'ils en pensaient. Peut-être que les musulmans auraient pu prier dans une partie de Sainte-Sophie et les chrétiens dans une autre. Mais là, c'est une façon de dire à ces minorités, je règne en maître en tant que turc et musulman, je tolère votre présence à condition que vous gardiez le silence. Cela révèle un manque total de culture démocratique.
Recep Tayyip Erdogan, à l'inverse, considère qu'avoir rendu Sainte-Sophie à l'islam est l'une de ses plus grandes réalisations, l'un de ses legs les plus importants, alors qu'il fêtera cette année les 20 ans au pouvoir de son parti, l'AKP, et qu'il affrontera l'an prochain de nouvelles élections.
Anne Andlauer pour le reportage à Sainte-Sophie. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Lougény. Et ça, Sébastien, c'est le côté pile. C'est l'ambiance des JO de Pékin en Chine. Terni aujourd'hui par une terrible histoire, celle d'une femme esclave.
Une histoire qui bouleverse en effet le pays depuis une dizaine de jours. Tout est parti d'une vidéo postée le 28 janvier dernier par un blogueur sur l'équivalent de TikTok en Chine. Nous sommes à 700 km au sud de Pékin, dans la campagne chinoise, en plein hiver. Une femme vit ici dans une cabane en briques, enchaînée à un mur. Ouais, c'est le blogueur qu'on entend là poser des questions à cette femme, l'air hébété, souffrant visiblement de troubles psychiatriques. Elle ne répond pas ou alors de façon confuse. Autour de son cou, une chaîne en métal et devant elle, une assiette pleine de soupe gelée par le froid. Seule information de cette vidéo, cette femme est mariée avec le propriétaire de la maison. Elle a 8 enfants de 2 à 23 ans. La vidéo va immédiatement devenir virale en Chine, aussitôt suspendue par les autorités qui craignent un scandale alors que les Jeux doivent commencer quelques jours après. Sauf que les internautes chinois commencent, comme on continue à poser des questions sur les réseaux. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Pourquoi est-elle enchaînée? Après plusieurs hésitations, les médias officiels ont fini par donner une version encore parcellaire. Cette femme s'appellerait Xiao Wamai, mariée une première fois il y a 15 ans, mais atteinte de troubles mentaux. Elle aurait été emmenée par une femme là où elle vit actuellement, soi-disant pour être soignée avant d'être remariée. Autrement dit, elle aurait été kidnappée puis vendue. La vente de femmes est un vrai phénomène dans certaines régions chinoises reculées. Plus de 50 000 femmes auraient été ainsi achetées par des paysans dans les années 80.
Les Suisses pourraient bannir la publicité sur le tabac ce dimanche.
Oui, ce pays est l'un des pays industrialisés les plus permissifs au monde en matière de publicité pour le tabac, car c'est là, à Genève notamment, que les plus grands cigaretiers ont leur siège social. Actuellement, seules les pubs à la télé et à la radio sont interdites, tout comme les messages adressés directement aux jeunes, sauf que certaines associations estime qu'il faut aller beaucoup plus loin et demande donc l'interdiction de toute publicité sur le tabac pouvant être vue par des mineurs, ce qui concrètement revient à la bannir purement et simplement. Mais le gouvernement suisse et le Parlement fédéral s'y opposent, expliquant que la loi serait inapplicable à cause d'Internet. On écoute le porte-parole du non à ce référendum.
Même des dictatures n'arrivent pas à contrôler le web, donc ce n'est pas la Suisse qui va y parvenir. Et donc, il s'agit d'être réaliste avec l'initiative qui nous est proposée. C'est bien toute publicité en Suisse qui sera interdite, y compris pour les adultes, mais avec l'impossibilité de contrôler des publicités téléguidées depuis l'étranger.
Voilà, les cigaretiers, pour leur part, vont même jusqu'à expliquer que c'est un terrain glissant pour ce qui concerne les libertés individuelles. Cette interdiction ouvrirait, selon eux, la voie à un durcissement des lois sur la publicité pour l'alcool ou le sucre. Selon les derniers sondages, les Suisses vont largement voter en faveur de cette initiative. Restera une inconnue, les 26 cantons voteront-ils oui également, condition sine qua non pour une adoption de la loi.
Et puis on termine à Mossoul, en Irak, où la prestigieuse bibliothèque universitaire va rouvrir.
Tout un symbole pour cette cité à la vie culturelle et intellectuelle très riche, devenue le bastion de l'État islamique pendant 3 ans, de 2014 à 2017. À l'époque, les djihadistes interdisaient la lecture des ouvrages contrevenant à leur idéologie. Des milliers de livres de philosophie, de droit, de sciences politiques, de poésie ont ainsi disparu, pour certains vendus au marché noir, pour d'autres brûlés dans des autodafés.
Celui que l'on entend ici, c'est le directeur actuel de la bibliothèque universitaire. La bibliothèque a subi de grandes pertes, dit-il. Nous n'avons pas pu sauver plus de 10 à 15% des livres, ce qui représente un très faible pourcentage. Autrement dit, 85 à 90% du fonds de l'université s'est volatilisé. La grande bibliothèque universitaire va rouvrir à la fin du mois. 5 ans après ce traumatisme, grâce au financement de l'ONU et aux dons privés, il y avait avant l'arrivée de Daesh 1 million de livres dans cette bibliothèque. Il n'y en aura plus que 32 000.
Sébastien Logeni, merci beaucoup Sébastien. Vous êtes bien accompagné pour sortir du studio. Voici James Brown, All the Way, sa date de 68, et c'est dans Un jour dans le monde et sur France Inter.
When somebody loves you, it's no good unless they love you. Happy to be near you when someone cheats all the way. Taller than the tallest tree. That's how it's got to be. Somebody needs you. It's no good unless they need you.
Jusqu'au bout la chanson aussi, et ça nous fait bien plaisir. James Brown sur France Inter. Le mercredi, c'est ciné et c'est Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
Heureusement que ça parle norvégien, parce que je suis sûre que c'est effrayant, en fait, ce qu'on est en train de voir ou d'entendre. En tout cas, on se fait peur, Corinne, dans le cinéma en VO ce soir avec The Innocence d'Eskilvogt, film d'horreur norvégien, donc récompensé il y a 10 jours au Festival du film fantastique de Gérard May. Ça sort aujourd'hui sur les écrans. Donc pas de mur qui suinte, pas de torrent d'hémoglobine, rien de tout ça. Juste le quotidien d'un groupe d'enfants qui s'ennuient ferme dans une cité, a priori pas de quoi fouetter un chat, vous me direz, eh ben si, justement.
Alors, on ne va pas divulgâcher, mais si vous aimez les bêtes, bouchez vos oreilles, fermez les yeux, car le chat en question va passer un sale moment entre les mains de ses enfants si mignons, mais tellement diaboliques. Le film entier repose sur leurs épaules et c'est une performance. On se croirait presque dans un roman de Stephen King. Quatre enfants de 7 à 11 ans qui communiquent par la pensée, qui font bouger des objets et que l'on va suivre pendant leurs vacances d'été au pied de leur barre d'immeuble, un quotidien d'ennui, de gens un peu bêtes, qui va très vite basculer dans la violence et même dans l'horreur, jusqu'à la lutte à mort. Le résultat est glaçant, mais ce qui est encore plus fort, c'est la mise en scène du film, qui est tout à l'opposé de ce chaos. Une esthétique très propre, très cadrée, très loin des clichés traditionnels du film d'horreur, donc pas de sorcières, pas de vampires, pas de zombies, pas de murs qui soignent, vous le disiez, juste du réalisme, une ambiance poisseuse pour nous rappeler que le danger est partout, même à la maison. C'est très très efficace.
Alors cette approche, Corinne, vous le disiez, qui est assez éloignée des clichés traditionnels du film d'horreur, elle tient beaucoup à la personnalité d'Esquilvogt et à son parcours.
Et oui, Esquilvogt, on le connaissait déjà pour son travail de scénariste aux côtés de Joachim Trier, récompensé à Cannes l'année dernière pour le film Julie en 12 chapitres, qui est aussi en lice pour les prochains Oscars. Deux visages très prometteurs du cinéma norvégien, qui ont déjà signé 5 films ensemble avec une approche toujours très subtile des personnages. C'est cette patte qu'on retrouve vraiment dans cette nouvelle sensation venue du froid, The Innocence, qui est inspirée en quelque sorte du quotidien d'Esquilvogt, de cette période de l'enfance un peu trouble, où on ne se pose pas de questions morales à ce que c'est bien par exemple, ou est-ce que c'est mal si je décide de tuer le chat du voisin. Cette vie secrète, voilà, toute innocente, qu'on pense mener loin des adultes et qui fournit un jour le meilleur des scénarios de films d'horreur.
L'enjeu, c'est énorme. C'est la vie et la mort entre les enfants, c'est vraiment une bataille, mais ça veut dire qu'il fallait que tout reste subtil, parce que si on fait exploser toutes les fenêtres d'un immeuble, comme on fait souvent dans ce genre de film, ça marche à fond, mais c'est pas intéressant, même si sur le moment je sursaute. Faut vraiment, pour moi, il faut que ça soit cet aspect psychologique, il faut que ça soit là. J'aime bien que c'est joué de manière réaliste, qu'on s'identifie avec les personnages, qu'il y a des psychologies complexes, et en plus on voit ça dans tous les films, et je trouve que aussi pour la violence, j'aime pas dans des films ou des séries télé quand on fait ça gratuitement, mais je savais que dans ce film, pour aller au bout des thèmes, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, quand un enfant fait quelque chose de méchant qu'un adulte. On est obligé, en tant que spectateur, de se poser des questions beaucoup plus intéressantes quand c'est des enfants qui le font. Et il fallait que ça se passe comme ça, en fait. Dans le genre, on peut créer des émotions plus fortes, tout est un tout petit peu plus efficace, on peut vraiment aller tout droit au cœur des choses, je trouve.
Alors je sais, Fabienne, que c'est pas exactement votre genre de film préféré.
J'ai très très peur.
Mais je vous le recommande, c'est vraiment un film d'horreur formidable, à l'ambiance glaçante, qui a séduit à la fois le public et le jury de la critique au Festival de Gérardmer.
Ça s'appelle The Innocent, d'Esquilvogt au cinéma ce mercredi, ça fait très peur, mais c'est très bien, j'irai avec Jean-Marc, tiens, voilà, vous me tiendrez la main, Jean-Marc.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, après le Canada, d'autres pays dont la France voit se former des convois de la liberté, comme ils se font appeler, pour protester contre les obligations vaccinales. Et pour vous, il faut impérativement comprendre ces mobilisations, sinon c'est laisser le champ libre à l'extrême droite, et c'est votre monde d'après.
Au début, on a pu penser que c'était une affaire spécifiquement canadienne, propre à ce pays gigantesque où, par définition, les chauffeurs routiers ont un rôle déterminant. 12 jours après le début de cette mobilisation, non seulement elle continue, encore 300 poids lourds environ dans le centre d'Ottawa, mais surtout elle fait donc tache d'huile aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et maintenant en Europe, particulièrement en France, qu'on voit attendu, vous le savez, à partir de vendredi soir à Paris et à Bruxelles lundi prochain. Il y a donc là un ressort qui fonctionne au-delà du Canada. Alors pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord écouter en fait au premier degré ce que disent les manifestants canadiens. Ils s'autoproclament « convoi de la liberté ». Tout simplement parce qu'ils le pensent. Ils crient ras-le-bol des contrôles et de la dictature de la peur. Ils ne sont pas forcément anti-vax, ils sont anti-restriction. C'est pas tout à fait la même chose. Et il est flagrant de constater que les mobilisations touchent pour l'instant des pays où les restrictions sont sévères, ou en tout cas des pays où elles sont perçues comme sévères. Au Canada, le mouvement bénéficie d'un soutien non négligeable. Alors les habitants d'Ottawa, eux, ils en ont assez, mais 44% des Canadiens disent comprendre les frustrations, la sensation d'étouffement des protestataires. Et ces manifestants soulèvent la question du rétablissement de toutes les libertés publiques au moment où la pandémie commence à reculer et où le bénéfice des restrictions peut devenir moins évident. C'est une question légitime.
Alors, sauf que ces mouvements sont noyautés par l'extrême droite.
Oui, et là encore, retournons au point de départ. Ottawa, c'est très révélateur. Il y a d'abord les signes extérieurs. Parmi les manifestants, des drapeaux avec des croix gammées, des drapeaux confédérés sudistes, des t-shirts à l'effigie du mouvement complotiste QAnon. Tout cela reste minoritaire, mais toléré par la majorité des protestataires. Plus saisissant encore, le profil des leaders du mouvement. Patrick King, fondateur du Maverick Party, islamophobe notoire. Benjamin Dichter, Mamakabi, James Bowder, fondateur du mouvement extrémiste Canada Unity. C'est la droite alternative, comme on dit. Mmh. Comprenez les proches de QAnon qui affirment voir dans la pandémie un complot de politiciens satanistes associés aux grandes compagnies pharmaceutiques. Et bien sûr, ils reçoivent le soutien de Donald Trump et des éditorialistes ultra-conservateurs de la chaîne américaine Fox News. C'est pas une ambiance gilet jaune, c'est plutôt une ambiance complotisme d'extrême droite. Et dans l'embryon de mobilisation en cours en France, on décèle aussi ce genre de profil. Ils récupèrent à leur profit des mobilisations qui, au départ, ne sont pas forcément politiquement très orientées. On va d'ailleurs relever un paradoxe au passage. Hein. Voilà des manifestants motivés donc par une dénonciation de l'autoritarisme qui se retrouvent noyautés par des groupuscules d'extrême droite favorables à une gouvernance autoritaire.
Et donc ça pose la question de l'attitude des pouvoirs publics en face.
Et là encore, au moment où cette question commence à se poser en Europe, retournons au point de départ, au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau a fait un choix qui interpelle. Depuis 12 jours, il est à la fois assez discret, seulement 2 ou 3 interventions publiques alors que la crise est sérieuse, et assez condescendant envers les manifestants. Il les regarde comme très minoritaires, minimise leur mobilisation qu'il réduit à une manifestation d'extrême droite, et il entend, je cite, que tout cela cesse. Peu de compréhension, en fait, pour la sincérité de la mobilisation à sa base. Alors, en adoptant cette position, il alimente l'idée que les élites sont coupées du monde réel et surtout, il pousse de facto les manifestants à se radicaliser. Il favorise, il accélère justement le noyautage par une extrême droite qui ne demande que ça. Alors même qu'au départ, répétons-le, la mobilisation est plus large. Et puis, comme aucun autre parti de gouvernement ne prend vraiment la défense des manifestants, c'est un boulevard pour les complotistes. La nature a horreur du vide. C'est donc une stratégie discutable. Et surtout, dénoncer l'instrumentalisation par l'extrême droite ne doit pas constituer un alibi pour éviter de regarder en face la question posée par ces manifestants. N'est-il pas temps de cesser de restreindre les libertés ?
Merci beaucoup. Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. La suite, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Philly. Comme chaque soir, juste après, il y a le téléphone sonne. Belle soirée avec nous sur France Inter et à tout de suite.